C'est quand même impressionnant de voir l'ensemble des chroniqueurs de Québécois qui généralement peuvent se vanter d'avoir des avis divergents. Allez! Tous dans un sens unique. Éric Lantier, au bout du fil, a dû remarquer de la patente. Salut, mon ami. Comment ça va?
Ça va bien. Et vous autres?
Ça va. On est heureux. Le printemps est là. Le déconfinement s'en vient. Puis on est chanceux. On n'a jamais eu le trouble de pouvoir sortir de chez nous. On était des travailleurs de services essentiels. Fait que on peut pas se plaindre pantoute. Puis d'ailleurs, la santé mentale est un sujet qu'on a à aborder ensemble. Je commencerai avec ça. Les conséquences de ce confinement-là, ainsi que de la peurologie inculquée à coups de chiffres rouges et d'annonces extrêmement exagérées dès la mi-mars. Qu'est-ce que ça a pu causer comme problème de santé mentale? Juste avant que tu émettes ton opinion, je shoot ça. Ils ont jamais eu de modèle là-dessus, puis ils l'ont jamais demandé. On dirait qu'ils pensent que ça fait pas de décès, des problèmes de santé mentale exacerbés. Je te laisse faire un peu de millage là-dessus.
Oui. Ben écoute, tu sais, j'entendais M. Legault aujourd'hui dire « Ouais, c'est la première fois qu'on vit l'ampleur d'une pandémie au Québec, donc on apprend sur le tas. » Mais il y a eu d'autres pandémies dans les dernières années, tu sais.
Hein? La H1N1 2009.
Oui, puis l'Ebola.
Ebola, en Afrique, oui, qui avait un taux de mortalité de genre 90%, pas 0,9, là. Et
exactement. Donc, il aurait pu justement s'instruire de ça puis se préparer au cas où, parce qu'à un moment donné, veut pas, même si ça se passe ailleurs dans le monde, on l'a vu. Là, avec la COVID-19, ça s'est passé en Chine, mais c'est venu jusqu'à nous. Donc, à un moment donné, ça, c'est une donnée qui m'échappe, mais j'espère que dans le débriefing, on va pouvoir analyser tout ça. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est justement les effets psychologiques. Ouais. Parce que, oui, évidemment, il y a énormément de peur. Et ce qui arrive, c'est que la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec a lancé un genre de cri d'alerte en disant « Oh, un instant, là, on se soucie beaucoup de la santé physique des gens, et avec raison. Mais au niveau de la santé mentale, il y a des signaux d'alerte parce que il y a des gens qui arrivent à l'urgence. Ils vont déclarer, par exemple, qu'ils vont pas bien, ils font de l'anxiété, ils ont des réactions. Et on les garde, on les envoie, mais puisqu'on les soigne pas bien puis qu'on les traite pas bien, ils vont revenir une deuxième fois.
Mais c'est comme tous les aspects de la santé, même. Tu sais, t'as dit, on se soucie de la santé physique si ça a trait au COVID, parce qu'ils ont reporté des milliers d'actions qui n'étaient pas prioritaires selon eux pendant que les hôpitaux étaient absolument vides. Alors, imaginons ce que ça peut représenter pour la santé mentale encore plus délaissée par le gouvernement. Est-ce qu'on a un indicateur de suicide, de taux de suicide au Québec? Ça sort juste annuellement. Si on peut pas avoir un palmarès, un nombre par mois, non.
Ben c'est sûr que moi, j'aimerais ça évaluer le palmarès, par exemple, dire comparer l'an dernier à pareille date avec cette année, et puis de voir, par exemple, dans la période entre février et juillet, si on prend cette tranche-là, la comparer avec l'année dernière, ça serait intéressant.
Il va falloir.
Oui, ça, c'est nécessaire. Puis ce qui arrive, c'est qu'au niveau de la santé mentale, là, c'est en train de toucher les enfants parce que les parents communiquent leurs craintes aux enfants, puis les enfants ont peur de l'attraper, puis ont peur de contaminer leurs parents. Mmh. Fait que c'est tout un cycle de peur qui devient un cercle vicieux. Et c'est pour ça que je crois que le déconfinement arrive à point parce qu'à un moment donné, le fait de sortir dehors, si on peut constater qu'avec des bonnes mesures, que dans les écoles, eh bien, ça se passe relativement bien, que les effets sont pas dommageables. Je pense que ça va rassurer la population, puis faut arriver là. Sur le plan social, sur le plan collectif, ça, c'est mon souhait, que l'expérience des écoles se joue très bien.
Je vais aller en ton sens pour rassurer des gens. Le H1N1, en 2009, aux États-Unis, a tué près de 400 enfants. Le COVID, un. Puis on n'est même pas certain. Alors, c'est C'est une anomalie statistique s'il y a un décès de personnes de moins de 40 ans. C'est plus que peu probable. C'est presque impossible. Pensez pas de même. Mais par exemple, le reste, le confinement, si on prolonge ça, les conséquences de l'autre côté, l'économie, c'est pas rien que de l'argent, hein? C'est la santé de milliers, de millions de la population en général. Puis l'ONU l'a dit, si on continue dans le confinement, en fait, non, déjà que le confinement qu'on a fait, 2 à 300 000 enfants vont décéder à travers le monde.
Mm-hmm.
Alors, faut, à un moment donné, prendre une décision, puis c'est les moins affectés, les enfants.
Oui, c'est ça, c'est les moins affectés, puis justement, pour qu'ils retrouvent le plaisir de jouer, d'être entre amis, pour qu'ils reviennent à la maison avec le sourire, qu'ils soient excités, qu'ils soient énervés, qu'ils disent à leurs parents, « Hey, ça a été une bonne journée, c'est le fun, je suis content, j'ai retrouvé... » Mon enseignante, c'est ça qu'on a besoin d'entendre.
Faut qu'ils apprennent de la matière aussi. Pour continuer dans notre liste de sujets, je voulais qu'on parle des travailleurs de la santé qui auront des vacances et qui sont le seul groupe de non-personnes âgées qui a un risque. C'est un risque, c'est pas un gros risque, mais c'est un risque avec cette pandémie-là parce qu'ils sont extrêmement exposés. Et là... Je fais une petite genèse. C'est les premiers qui sont sortis pour contester quoi que ce soit qu'avait amené le gouvernement Legault après sa première conférence du vendredi 13. Ils ont levé un flag en disant, là, nos vacances, puis nos horaires à l'infini, remaniés en temps supplémentaire tout le temps, c'est dangereux. Ça avait pas été entendu à l'époque. Ça commence à l'être, là?
Oui, ça commence à l'être. Puis aujourd'hui, M. Legault a lancé un signal. Je suis content parce que la semaine dernière... moi, j'ai levé le flag, je me suis dit, parce que j'analyse ça, là, comment se déroule cette crise-là, puis comment elle est gérée. Puis un des effets importants, c'est que dans n'importe quelle crise, là, on parle de la COVID, mais ça peut être des inondations, ça peut être des feux de forêt. À chaque fois qu'il y a du personnel aidant qui sont là pour offrir du secours, de l'aide aux gens qui sont sinistrés ou qui sont en danger... Mmh. C'est toujours eux qui sont le plus à risque. C'est eux qui vont s'épuiser le plus rapidement possible.
Exact.
Quand j'entendais qu'ils disaient, bon là, on ne leur accordera pas de vacances, ben voyons donc, tu vas les brûler, tu vas avoir un plus gros problème de service. Ça n'a pas de bon sens.
Ah là, on commence fait, on a nommé le travailleur de la santé qui ne rentre pas. C'est ça qui s'est passé.
Exact. Mais je suis content. Bon, ce qui a aidé, c'est que des gens ont répondu. Ils ont répondu à l'appel, ils se sont dit « OK, moi, je vais aller travailler dans un CHSLD, je vais pouvoir me faire une paye, j'ai pas d'argent présentement. » Alors, ben moi, je remercie ces Québécois et Québécoises qui contribuent à ce que nos anges gardiens vont pouvoir se reposer cet été.
Il y en a qui ont fini par répondre à l'appel. As-tu compris pourquoi ils n'étaient pas capables de rediriger du monde payé à rien faire ou en télétravail vers ces domaines-là, toi? J'ai jamais compris.
Écoute, tu veux vraiment rentrer là-dedans?
Non, on n'a pas le temps. Ça me tentait de poser la question, pardon.
Moi, ça me déprime tellement ce bout-là. Là.
Hein?
J'en reviens pas payé. Il y en a qui sont payés à rien faire ou qui ont été payés à rien faire, puis d'autres qui sont payés à pas faire grand-chose. En tout cas, ça, c'est déprimant. Je comprends sur le plan économique. Au moins, on n'a pas tout perdu parce qu'ils ont contribué à l'économie.
Ouais. T'es fin. On va aller à notre dernier point ensemble. Andrew versus Justin. Qui a fait la meilleure faute anti-confinement? Moi, je pense que c'est Andrew qui a analysé un avion versus Justin qui a fait traîner toute son équipe de sécurité vers son chalet. T'es d'accord, hein? C'est Andrew, sérieux, c'était un peu plus violent, son affaire. Mais qui est le meilleur gestionnaire père de famille? Qui enverra ses enfants ou non à l'école? La question leur a été posée.
Ben oui, tout le monde en parle. Dimanche soir, le premier ministre Justin Trudeau, lui, a dit... Ben, là, je vais décider à dernière minute si je dois envoyer mes enfants, par exemple, parce que là, ces enfants vont pas au Québec, mais si, hypothétiquement, il avait été à l'école au Québec, ben, il aurait hésité jusqu'à dernière minute parce qu'il est pas certain que c'est la meilleure décision pour le bien de ses enfants. Tandis qu'Andrew Scheer lui a dit, voyons donc, moi, je vais les envoyer. Alors, qui inspire le plus confiance dans le système puis dans ce qui est établi? Entre les deux, moi, je vais avoir un chef, là, je vais avoir un premier ministre qui va dire, écoutez, si les écoles rouvrent, c'est que c'est sécuritaire.
Mais là, c'est ça. Bon, c'est pas lui qui a pris la décision. Et là, il semble, au début, il était plus ses briques, ses mesures. Il a complètement viré de bord au mauvais moment, exactement quand on se rendait compte que finalement, on avait capoté pour rien. Lui, il s'est mis à capoter pour vrai. Et il est très empêcheur de confiance, très fort là-dessus, la dramatisation d'un bout à l'autre, juste son maudit ton supposément mielleux, c'est pas productif, c'est mauvais pour la santé mentale des Canadiens, puis l'économie, puis pas mal tous les aspects de notre vie.
Donc, pas surprenant. Oui, tout à fait. Moi, ça n'a pas de bon sens, parce que je veux dire, les parents qui sont en train d'hésiter ou qui se questionnent, là, ben, ils se disent, ben voyons donc, le premier ministre du Canada, là, lui, il a peur d'envoyer ses enfants. Qu'est-ce que je fais, moi, les envoyer? Ben voyons donc. Et pourtant, moi, pour avoir parlé avec des enseignants, des directeurs d'école qui ont commencé à travailler aujourd'hui, je peux te dire une chose, qu'ils font tout en leur pouvoir pour assurer la protection puis assurer les meilleures mesures. Est-ce que ça va être parfait? Non. Est-ce qu'il va y avoir des petits manques? Oui. Mmh. Mais tu sais, il y a un souci de sécurité et un
extrême.
Souci... Ben oui, voyons donc. Puis là, le premier ministre du Canada, bon, là, je ne sais pas, ça me fait peur. Ben, tabarouette! T'inspire personne, là.
Ah, il sait même pas ce qu'il va faire pour combler les déficits records qui crée jour après jour. Il se fait poser la question. Bon, pas penser à ça. Et puis là, pour moi, il n'y a pas rien que Sophie qui a pogné le COVID. Puis c'est vrai, les effets bizarres dans certains cas qui affectent le cerveau. Je sais pas, là. Sérieux, j'ai déjà trouvé pas si pire. Depuis le début de ça, c'est impressionnant à quel point il est mauvais. Je trouve François Legault mauvais. Mais il est de catégorie triple A comparé à Justin pareil. Là. C'est ça n'a pas de sens.
Oui, puis aussi, c'est que dans son approche, on dirait toujours qu'il apprend un texte par cœur. François Legault, au moins, c'est fluide. Il parle, puis tu sens pas qu'il y a un texte. C'est ça, ça sort.
Oh, il garde parler sans un texte, exact.
Ben oui. Mais tu sais. Et puis, il y a toujours son genre de bégaiement, Justin Trudeau.
En fait, tu lui poses une question, tu es certain qu'il va dire « on travaille là-dessus ». On travaille là-dessus. Écrit « on travaille là-dessus », puis va travailler là-dessus, arrête de donner des conférences pour radoter ça, ça n'en a rien.
Oui, c'est ça, voici le résultat de notre travail.
C'est à chaque phrase.
Oui.
Automatique. On travaille...
Ouais.
Infoman a fait une belle job là-dessus, d'ailleurs.
Mais ça, tu soulèves un point. J'ai hâte d'écouter l'Infoman, là, le 31 décembre. Après ça, le bye-bye, parce qu'il va en avoir des bonnes, je suis certain.
Il n'est pas microbiologiste, lui, à la base, en plus?
Il semble que oui.
Le gars est un scientifique. D'ailleurs, il y a une tronche de ça. Tronche à tronche. Mais je suis pas sûr que c'est pas dans la microbiologie. Il faudrait qu'on check ça. Puis il n'a pas l'air à trouver que c'est si judicieux des politiques publiques actuellement, nécessairement, d'ailleurs.
Mm-hmm.
C'était judicieux de te parler, par exemple. Merci, Éric Landier.
Toujours un plaisir.
Partagez, à bientôt.
Au revoir.
On va faire un tour sur ericlantier.net pour regarder les billets écrits et autres interventions de notre ami.